Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose en ce moment un livre bien typique des histoires de terrain d'autrefois, nos campagnes. Et c'est Alphonse Daudet qui nous en parle. Il nous raconte la Provence avec l'accent des cigales, dit-on quelquefois. Le héros, c'est Tartarin de Tarascon. En quelques mots, je lis sur la quatrième de couverture du livre. Il est vantard, vaniteux. Il se nomme Tartarin et grand chasseur, il tue beaucoup de casquettes. Car à Tarascon, où il habite, une maison aux murs couverts d'armes étranges et au jardin planté d'un baobab miniature, le gibier se fait rare. Il ira donc en Afrique pour chasser le lion. Justement, après beaucoup de faux espoirs de départ, nous allons assister cette fois au départ du héros, déguisé en arabe et armé comme un cuirassé d'escouade. Je reprends la lecture au deuxième épisode qui s'intitule « Chez les teurs » et je lis la définition de ce mot « teur » telle qu'elle nous est donnée dans l'épisode précédent. Il est dit « Toute cette foule se pressait, se bousculait devant la porte de Tartarin, ce bon monsieur Tartarin qui s'en allait tuer des lions chez les teurs. » Pour Tarascon, l'Algérie, l'Afrique, la Grèce, la Perse, la Turquie, la Mésopotamie, tout cela forme un grand pays très vague, presque mythologique. Et cela s'appelle les teurs, entre parenthèses, les Turcs. Nous voici donc partis pour aller chez les teurs. Chapitre 1. La traversée, les 5 positions de la Chéchia, le soir du 3e jour, miséricorde. Je voudrais, mes chers lecteurs, être peintre et grand peintre pour mettre sous vos yeux, en tête de ce second épisode, les différentes positions que prit la Chéchia, un bonnet rouge, de Tartarin de Tarascon, dans ces 3 jours de traversée qu'elle fit à bord du Zouave, entre la France et l'Algérie. Je vous la montrerai d'abord au départ, sur le pont, héroïque et superbe comme elle était, auréolant cette belle tête tarasconnaise. Je vous la montrerai ensuite à la sortie du port, quand le zouave commence à caracoler sur les lames. Je vous la montrerai frémissante, étonnée, et comme sentant déjà les premières atteintes de son mal. Puis, dans le golfe du Lion, à mesure qu'on avance au large et que la mer devient plus dure, je vous la ferai voir aux prises avec la tempête, se dressant effarée sur le crâne du héros et son grand flot de laine bleue qui se hérisse dans la brume de mer et la bourrasque. 4e position, 6h du soir, en vue des côtes corses. L'infortuné Chéchia se penche par-dessus le bastingage et lamentablement regarde et sonde la mer. Enfin, 5e et dernière position, au fond d'une étroite cabine, dans un petit lit qui a l'air d'un tiroir de commode, quelque chose d'informe et de désolé roule en geignant sur l'oreiller. C'est la Chéchia, l'héroïque Chéchia du départ, réduite maintenant au vulgaire état de casque à mèche et s'enfonçant jusqu'aux oreilles d'une tête de malade, blême et convulsionnée. Ah, si les Tarasconnais avaient pu voir leur grand Tartarin couché dans son tiroir de commode sous le jour blafard et triste qui tombait des hublots, parmi cette odeur fade de cuisine et de bois mouillé, l'écœurante odeur du paquebot. S'il l'avait entendu râler à chaque battement de l'hélice, demander du thé toutes les 5 minutes et jurer contre le garçon avec une petite voix d'enfant, comme il s'en serait voulu de l'avoir obligé à partir. Ma parole d'historien, le pauvre Teur faisait pitié. Surpris tout à coup par le mal, l'infortuné n'avait pas eu le courage de desserrer sa ceinture algérienne, ni de se défubler de son arsenal. Le couteau de chasse à gros manches lui cassait la poitrine. Le cuir de son revolver lui meurtrissait les jambes. Pour l'achever, les bougonnements de Tartarin Sancho qui ne cessaient de geindre et de pester. « Imbécile, va, je te l'avais bien dit. Ah, tu as voulu aller en Afrique ? Eh bien, t'es, la voilà l'Afrique. Comment la trouves-tu ? » Ce qu'il y avait de plus cruel, c'est que du fond de sa cabine et de ses gémissements, le malheureux entendait les passagers du grand salon rire, manger, chanter, jouer aux cartes. La société était aussi joyeuse que nombreuse à bord du Zouave. Des officiers qui rejoignaient leur corps, des dames de l'Alcazar de Marseille, des cabotins, un riche musulman qui revenait de la Mecque, un prince monténégrin de très farceur qui faisait des imitations de Ravel et de Gilles Pérès. Pas un de ces gens-là n'avait le mal de mer, et leur temps se passait à boire du champagne avec le capitaine du Zouave, un bon gros vivant de Marseillais qui avait ménage à Alger et à Marseille et répondait au joyeux nom de Barbassou. Tartarin de Tarascon en voulait à tous ces misérables. Leur gaieté redoublait son mal. Enfin, dans l'après-midi du 3e jour, il se fit à bord du navire un mouvement extraordinaire qui tira notre héros de sa longue torpeur. La cloche de l'avant sonnait. On entendait les grosses bottes des matelots courir sur le pont. « Machine en avant ! Machine en arrière !» criait la voix enrouée du capitaine Barbassou. Puis « Machine, stop !» Un grand arrêt, une secousse, et plus rien. Rien que le paquebot se balançant silencieusement de droite à gauche comme un ballon dans l'air. Cet étrange silence épouvanta le Tarasconnais. « Miséricorde, nous sombrons !» cria-t-il d'une voix terrible, et retrouvant ses forces par magie, il bondit de sa couchette et se précipita sur le pont avec son arsenal. Chapitre 2. Aux armes, aux armes! On ne sombrait pas, on arrivait. Le Zouave venait d'entrer dans la rade, une belle rade aux eaux noires et profondes, mais silencieuses, mornes, presque désertes. En face, sur une colline, Alger la Blanche avec ses petites maisons d'un blanc mat qui descendent vers la mer, serrées les unes contre les autres. Un étalage de blanchisseuses sur le coteau de Meudon. Par là-dessus, un grand ciel de satin bleu. Oh, mais si bleu ! L'illustre Tartarin, un peu remis de sa frayeur, regardait le paysage, en écoutant avec respect le prince monténégrin qui, debout à ses côtés, lui nommait les différents quartiers de la ville. La Casbah, la Ville Haute, la rue Babazoun. Très bien élevé, ce prince monténégrin. De plus, connaissant à fond l'Algérie et parlant l'arabe couramment. Aussi, Tartarin se proposait-il de cultiver sa connaissance. Tout à coup, le long du bastingage contre lequel ils étaient appuyés, le Tarasconnais aperçoit une rangée de grosses mains noires qui se cramponnaient par dehors. Presque aussitôt, une tête de nègre toute crépue apparaît devant lui et avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, le pont se trouva envahi de tous côtés par une centaine de forbans, noirs, jaunes, à moitié nus, hideux, terribles. Ces forbans-là, Tartarin les connaissait. C'était eux, c'est-à-dire ils. Ces fameux ils qu'il avait si souvent cherchés la nuit dans les rues de Tarascon. Enfin, ils se décidaient donc à venir. D'abord, la surprise le cloua sur place. Mais quand il vit les forbans se précipiter sur les bagages, arracher la bâche qui les recouvrait, commencer enfin le pillage du navire, alors le héros se réveilla et, dégainant son couteau de chasse, « aux armes !» cria-t-il aux voyageurs. Et le premier de tous, il fondit sur les pirates. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ?» fit le capitaine Barbassou qui sortait de l'entrepont. « Ah, vous voilà, capitaine ! Vite, vite, armez vos hommes !» Et pourquoi faire Bundiou ? Ben, vous ne voyez donc pas ? Et quoi donc ? Là, devant vous, les pirates ! Le capitaine Barbassou le regardait tout ahuri. À ce moment, un grand diable de nègre passait devant eux en courant avec la pharmacie du héros sur son dos. « Misérable ! Attends-moi ! » hurla le Tarasconnais, et il s'élança la dague en avant. Barbassou le rattrapa au vol, et le retenant par la ceinture, « Mais restez donc tranquille, trône de l'air ! Ce ne sont pas des pirates ! Il y a longtemps qu'il n'y en a plus de pirates ! Ce sont des portefaix !»« Des portefaix ? Eh oui, des portefaix qui viennent chercher les bagages pour les porter à terre !»« Rengainez donc votre coutelas ! Donnez-moi votre billet et marchez derrière ce nègre !» Un brave garçon qui va vous conduire à terre et même jusqu'à l'hôtel si vous le désirez. » Un peu confus, Tartarin donna son billet et se mettant à la suite du nègre, descendit par le tire-vieille dans une grosse barque qui dansait le long du navire. Tous ses bagages y étaient déjà, ses malles, caisses d'armes, conserves alimentaires. Comme il tenait toute la barque, on n'eut pas besoin d'attendre d'autres voyageurs. Le nègre grimpa sur les malles et s'y accroupit comme un singe, les genoux dans ses mains. Un autre nègre prit les rames. Tous deux regardaient Tartarin en riant et montrant leurs dents blanches. Debout à l'arrière, avec cette terrible moue qui faisait la terreur de ses compatriotes, le grand Tarasconnais tourmentait fiévreusement le manche de son coutelas. Car, malgré ce qu'avait pu lui dire Barbassou, il n'était qu'à moitié rassuré sur les intentions de ces portefaix à peau d'ébène qui ressemblaient si peu aux braves portefaix de Tarascon. 5 minutes après, la barque arrivait à terre et Tartarin posait le pied sur ce petit quai barbaresque où, 300 ans auparavant, un galérien espagnol nommé Michel Cervantes préparait, sous le bâton de la chiourme algérienne, un sublime roman qui devait s'appeler « Don Quichotte ». Chapitre 3. Invocation à Cervantes, débarquement, où sont les teurs ? Pas de teurs ? Des illusions. Oh, Michel Cervantes Saavedra ! Si ce qu'on dit est vrai, qu'au lieu où les grands hommes ont habité, quelque chose de même erre et flotte dans l'air jusqu'à la fin des âges, ce qui restait de toi sur la plage barbaresque dut tressaillir de joie en voyant débarquer Tartarin de Tarascon, ce type merveilleux du Français du Midi en qui s'étaient incarnés les deux héros de ton livre, Don Quichotte et Sancho Panza. L'air était chaud ce jour-là. Sur le quai ruisselant de soleil, 5 ou 6 douaniers, des Algériens attendant des nouvelles de France, quelques morts accroupis qui fumaient leurs longues pipes, des matelots maltais ramenant de grands filets où des milliers de sardines luisaient entre les mailles comme de petites pièces d'argent. Mais à peine Tartarin eut-il mis pied à terre, le quai s'anima, changea d'aspect. Une bande de sauvages, encore plus hideux que les forbans du bateau, se dressa d'entre les cailloux de la berge et se rua sur le débarquant. Grands arabes tout nus sous des couvertures de laine, petits morts en guenilles, nègres, tunisiens, mahonnais, bzabités, garçons d'hôtel en tablier blanc, tous criant, hurlant, s'accrochant à ses habits, se disputant ses bagages, l'un emportant ses conserves, l'autre sa pharmacie, et dans un charabia fantastique, lui jetant à la tête des noms d'hôtels invraisemblables. Étourdi de tout ce tumulte, Le pauvre Tartarin allait, venait, pestait, jurait, se démenait, courait après ses bagages et, ne sachant comment se faire comprendre de ces barbares, les haranguait en français, en provençal et même en latin. Du latin de Pourceaugnac. Rosa, la rose, bonus, bona, bonhomme, tout ce qu'il savait. Peine perdue, on ne l'écoutait pas. Heureusement qu'un petit homme vêtu d'une tunique à collet jaune et armé d'une longue canne de compagnon intervint comme un dieu d'Homère dans la mêlée et dispersa toute cette racaille à coups de bâton. C'était un sergent de ville algérien. Très poliment, il engagea Tartarin à descendre à l'hôtel de l'Europe et le confia à des garçons de l'endroit qui l'amenèrent, lui et ses bagages, en plusieurs brouettes. Au premier pas qu'il fit dans Alger, Tartarin de Tarascon ouvrit de grands yeux. D'avance, il s'était figuré une ville orientale, féerique, mythologique, quelque chose tenant le milieu entre Constantinople et Zanzibar. Il tombait en plein Tarascon. Des cafés, des restaurants, de larges rues, des maisons à quatre étages, une petite place macadamisée où des musiciens de la ligne jouaient les polkas d'Offenbach. Des messieurs sur des chaises buvant de la bière avec des échaudés, des dames, quelques lorettes et puis des militaires. Et pas un teur. Il n'y avait que lui. Aussi, pour traverser la place, se trouva-t-il un peu gêné. Tout le monde le regardait. Les musiciens de la ligne s'arrêtèrent et la polka d'Offenbach resta un pied en l'air. Les deux fusils sur l'épaule, le revolver sur la hanche, farouche et majestueux comme Robinson Crusoe, Tartarin passa gravement au milieu de tous les groupes. Mais, en arrivant à l'hôtel, ses forces l'abandonnèrent. Le départ de Tarascon, le port de Marseille, la traversée, le prince monténégrin, les pirates, tout se brouillait et roulait dans sa tête. Il fallut le monter à sa chambre, le désarmer, le déshabiller. Déjà même, on parlait d'envoyer chercher un médecin. Mais, à peine sur l'oreiller, le héros se mit à ronfler si haut et de si bon cœur que l'hôtelier jugea les secours de la science inutiles et tout le monde se retira discrètement.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 4. Le premier affût. 3 heures sonnaient à l'horloge du gouvernement quand Tartarin se réveilla. Il avait dormi toute la matinée, toute la nuit, toute la journée et même un bon morceau de l'après-midi. Il faut dire aussi que depuis 3 jours, la Chéchia en avait vu de rude. La première pensée du héros, en ouvrant les yeux, fut celle-ci. « Je suis dans le pays du lion. » Pourquoi ne pas le dire ? À nette idée que tes lions étaient là, tout près, à 2 pas et presque sous la main, et qu'il fallait, il allait falloir en découdre. Brouh, un froid mortel le saisit. Et il se fourra intrépidement sous sa couverture. Mais au bout d'un moment, la gaieté du dehors, le ciel si bleu, le grand soleil qui ruisselait dans la chambre, un bon petit déjeuner qu'il se fit servir au lit, sa fenêtre grande ouverte sur la mer, le tout arrosé d'un excellent flacon de vin de Crescia, le rendit bien vite son ancien héroïsme. « Au lion ! Au lion ! » cria-t-il en rejetant sa couverture. Et il s'habilla prestement. Voici quel était son plan. Sortir de la ville sans rien dire à personne. Se jeter en plein désert, attendre la nuit, s'embusquer et au premier lion qui passerait, pam, pam! Puis revenir le lendemain, déjeuner à l'hôtel de l'Europe, recevoir les félicitations des Algériens et fréter une charrette pour aller chercher l'animal. Il s'arma donc à la hâte, roula sur son dos la tente abri dont le gros manche montait d'un bon pied au-dessus de sa tête et raide comme un pieu, descendit dans la rue. Là, ne voulant demander sa route à personne, de peur de donner l'éveil sur ses projets, il tourna carrément à droite, enfila jusqu'au bout les arcades Babazoun, où du fond de leur noire boutique, des nuées de juifs algériens le regardaient passer, embusqués dans un coin comme des araignées. Il traversa la place du théâtre, prit le faubourg et enfin la grande route poudreuse de Mustapha. Il y avait sur cette route un encombrement fantastique. Omnibus, fiacres, coricoloses, des fourgons du train, de grandes charrettes de foin traînées par des bœufs, des escadrons de chasseurs d'Afrique, des troupeaux de petits ânes microscopiques, des négresses qui vendaient des galettes, des voitures d'Alsaciens immigrants, des spahis en manteau rouge, tout cela défilant dans un tourbillon de poussière au milieu des cris, des chants, des trompettes, entre deux haies de méchantes baraques où l'on voyait de grandes mahonaises se peignant devant leurs portes, des cabarets pleins de soldats, des boutiques de bouchers et d'écarisseurs. « Qu'est-ce qu'ils me chantent donc avec leur Orient ?» pensait le grand Tartarin. « Il n'y a pas même tant de Turcs à Marseille !» Tout à coup, il vit passer près de lui, allongeant ses grandes jambes et rengorgé comme un dindon, un superbe chameau. Cela lui fit battre le cœur. Des chameaux déjà ? Les lions ne devaient pas être loin. Et en effet, au bout de 5 minutes, il vit arriver vers lui, le fusil sur l'épaule, toute une troupe de chasseurs de lions. « Les lâches !» se dit notre héros, en passant à côté d'eux. Les lâches allaient aux lions par bandes et avec des chiens. Car ils ne se seraient jamais imaginé qu'en Algérie, on pût chasser autre chose que des lions. Pourtant, ces chasseurs avaient de si bonnes figures de commerçants retirés. Et puis cette façon de chasser le lion avec des chiens et des carnassières était si patriarcale que le Tarasconnais, un peu intrigué, crut devoir aborder un de ces messieurs. « Et autrement, camarade, bonne chasse ?»« Pas mauvaise, » répondit l'autre en regardant d'un œil effaré l'armement considérable du guerrier de Tarascon. « Vous avez tué ?» « Mais oui, pas mal, voyez plutôt. » Et le chasseur algérien montrait sa carnassière, toute gonflée de lapins et de bécasses. « Comment ça, votre carnassière ? Vous les mettez dans votre carnassière ? Et où voulez-vous donc que je les mette ? Mais alors, c'est des tout-petits ? Des petits et puis des gros, » fit le chasseur. Et comme il était pressé de rentrer chez lui, il rejoignait ses camarades à grandes enjambées. L'intrépide Tartarin en resta planté de stupeur au milieu de la route. Puis, après un moment de réflexion, « Bah !» se dit-il, « ce sont des blagueurs, ils n'ont rien tué du tout !» Et il continua son chemin. Déjà, les maisons se faisaient plus rares, les passants aussi. La nuit tombée, les objets devenaient confus. Tartarin de Tarascon marcha encore une demi-heure. À la fin, il s'arrêta. C'était tout à fait la nuit. Nuit sans lune, criblée d'étoiles, personne sur la route. Malgré tout, le héros pensa que les lions n'étaient pas des diligences et ne devaient pas volontiers suivre le grand chemin. Il se jeta à travers champs. À chaque pas, des fossés, des ronces, des broussailles. N'importe. Il marchait toujours. Puis tout à coup, halte. « Il y a du lion dans l'air par ici ?» se dit notre homme, et il renifla fortement de droite et de gauche. Chapitre 5. Pan, pan. C'était un grand désert sauvage, tout hérissé de plantes bizarres, de ces plantes d'Orient qui ont l'air de bêtes méchantes. Sous le jour discret des étoiles, leur ombre agrandie s'est tirée par terre en tous sens. À droite, la masse confuse et lourde d'une montagne, l'Atlas peut-être. À gauche, la mer invisible qui roulait sourdement, un vrai gîte à tenter les fauves. un fusil devant lui, un autre dans les mains, Tartarin de Tarascon mit un genou en terre et attendit. Il attendit une heure, deux heures, rien. Alors, il se souvint que, dans ses livres, les grands tueurs de lions n'allaient jamais à la chasse sans amener un petit chevreau qu'ils attachaient à quelques pas devant eux et qu'ils faisaient crier en lui tirant la patte avec une ficelle. N'ayant pas de chevreau, le Tarasconnais eut l'idée d'essayer des imitations. Il se mit à bêler d'une voix chevrotante. « Mais !» D'abord très doucement, parce qu'au fond de l'âme, il avait tout de même un peu peur que le lion l'entendît. Puis, voyant que rien ne venait, il bêla plus fort. « Mais !» Rien encore. Impatienté, il reprit de plus belle, et plusieurs fois de suite. « Mais !» Avec tant de puissance que ce chevreau finissait par avoir l'air d'un bœuf. Tout à coup, à quelques pas devant lui, quelque chose de noir et de gigantesque s'abattit. Il se tut. Cela se baissait, flairait la terre, bondissait, se roulait, partait au galop, puis revenait et s'arrêtait net. C'était le lion, à n'en pas douter. Maintenant, on voyait très bien ses quatre pattes courtes, sa formidable encolure et deux yeux. Deux grands yeux qui luisaient dans l'ombre. En joue, feu, pam, pam, c'était fait. Puis, tout de suite, un bondissement en arrière et le coutelas de chasse au poing. Au coup de feu du Tarasconnais, un hurlement terrible répondit. « Il en a !» cria le bon Tartarin. Et ramassé sur ses fortes jambes, il se préparait à recevoir la bête. Mais elle en avait plus que son compte et s'enfuit au triple galop en hurlant. Lui, pourtant, ne bougea pas. Il attendait la femelle, toujours comme dans ses livres. Par malheur, la femelle ne vint pas. Au bout de deux ou trois heures d'attente, le Tarasconnais se lassa. La terre était humide, la nuit devenait fraîche, la bise de mer piquait. « Si je faisais un somme en attendant le jour, se dit-il. » Et pour éviter les rhumatismes, il eut recours à la tente-abri. Mais voilà le diable! Cette tente-abri était d'un système si ingénieux qu'il ne put jamais venir à bout de l'ouvrir. Il eut beau s'escrimer et suer pendant une heure, la damnée tente ne s'ouvrit pas. Il y a des parapluies qui, par des pluies torrentielles, s'amusent à vous jouer de ces tours-là. De guerre lasse, le Tarasconnais jeta l'ustensile par terre et se coucha dessus en jurant, comme un vrai provençal qu'il était. « Ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta » « Qu'est-ce à quoi ?» fit Tartarin, s'éveillant en sursaut. C'étaient les clairons des chasseurs d'Afrique qui sonnaient la diane dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lions stupéfait se frotta les yeux. Lui, qui se croyait en plein désert, savez-vous où il était? Dans un carré d'artichaut, entre un plant de chou-fleur et un plant de betterave. Son Sahara avait des légumes. Tout près de lui, sur la jolie côte verte de Mustapha supérieur, des villas algériennes, toutes blanches, luisaient dans la rosée du jour levant. On se serait cru aux environs de Marseille, au milieu des bastides et des bastidons. La physionomie bourgeoise et potagère de ce paysage endormi étonna beaucoup le pauvre homme et le mit de fort méchante humeur. « Ces gens-là sont fous, se disait-il, de planter leurs artichauts dans le voisinage du lion. Car enfin, je n'ai pas rêvé. Les lions viennent jusqu'ici, en voilà la preuve. » La preuve, c'était des taches de sang que la bête, en fuyant, avait laissées derrière elle. Penché sur cette piste sanglante, l'œil aux aguets, le revolver au poing, le vaillant Tarasconnais arriva d'artichaut en artichaut jusqu'à un petit champ d'avoine. De l'herbe foulée, une mare de sang et, au milieu de la mare, couché sur le flanc avec une large plaie à la tête, un... devinez quoi ? Un lion parbleu ? Non ! Un âne ! Un de ces tout petits ânes qui sont si communs en Algérie et qu'on désigne là-bas sous le nom de bourricot.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Arrivée de la femelle, chapitre 6, terrible combat, le rendez-vous des lapins. Le premier mouvement de Tartarin à l'aspect de sa malheureuse victime fut un mouvement de dépit. Il y a si loin, en effet, d'un lion à un bourricot. Son second mouvement fut tout à la pitié. Le pauvre bourricot était si joli, il avait l'air si bon. La peau de ses flancs, encore chaude, allait et venait comme une vague. Tartarin s'agenouilla et du bout de sa ceinture algérienne essaya d'étancher le sang de la malheureuse bête. Et ce grand homme soignant ce petit âne, c'était tout ce que vous pouvez imaginer de plus touchant. Au contact soyeux de la ceinture, le bourricot, qui avait encore pour 2 liards de vie, ouvrit son grand œil gris, remua 2 ou 3 fois ses longues oreilles, comme pour dire « merci, merci ». Puis une dernière convulsion l'agita de tête en queue, et il ne bougea plus. « Noirot ! Noirot ! » cria tout à coup une voix étranglée par l'angoisse. En même temps, dans un taillis voisin, les branches remuèrent. Tartarin n'eut que le temps de se relever et de se mettre en garde. C'était la femelle. Elle arriva, terrible et rugissante, sous les traits d'une vieille Alsacienne en marmotte, armée d'un grand parapluie rouge et réclamant son âne à tous les échos de Mustapha. Certes, il aurait mieux valu pour Tartarin avoir affaire à une lionne en furie qu'à cette vieille méchante. Vainement, le malheureux essaya de lui faire entendre comment la chose s'était passée, qu'il avait pris Noirot pour un lion. La vieille crut qu'on voulait se moquer d'elle, et poussant d'énergie, Tartéifle tomba sur le héros à coups de parapluie. Tartarin, un peu confus, se défendait de son mieux, parait les coups avec sa carabine, suait, soufflait, bondissait, criait « Mais madame, mais madame !»« Va te promener !» Madame était sourde et sa vigueur le prouvait bien. Heureusement, un troisième personnage arriva sur le champ de bataille. C'était le mari de l'Alsacienne, Alsacien lui-même et cabaretier de plus fort bon comptable. Quand il vit à qui il avait affaire et que l'assassin ne demandait qu'à payer le prix de la victime, il désarma son épouse et l'on s'entendit. Tartarin donna 200 francs. L'âne en valait bien 10. C'est le prix courant des bourricots sur les marchés arabes. Puis on enterra le pauvre Noirot au pied d'un figuier et l'Alsacien, mis en bonne humeur par la couleur des douros tarasconnais, invita le héros à venir rompre une croûte à son cabaret, qui se trouvait à quelques pas de là, sur le bord de la grande route. Les chasseurs algériens venaient y déjeuner tous les dimanches, car la plaine était giboyeuse, et à 2 lieues autour de la ville, il n'y avait pas de meilleur endroit pour les lapins. « Et les lions ?» demanda Tartarin. L'Alsacien le regarda, très étonné. « Les lions ?»« Oui, les lions. En voyez-vous quelquefois ?» reprit le pauvre homme avec un peu moins d'assurance. Le cabaretier éclata de rire. « Ah, ah ben merci, des lions, pourquoi faire ?»« Il n'y en a donc pas en Algérie ?»« Ma foi, je n'en ai jamais vu. Et pourtant, voilà 20 ans que j'habite la province. Cependant, je crois bien avoir entendu dire, il me semble que les journaux... Mais c'est beaucoup plus loin, là-bas, dans le Grand Sud. » À ce moment, il arrivait au cabaret. Un cabaret de banlieue, comme on en voit à Vanves ou à Pantin, avec un rameau tout fané au-dessus de la porte. Des queues de billard peintes sur les murs et cette enseigne inoffensive « Au rendez-vous des lapins ». Le rendez-vous des lapins ? Oh, bravida, quel souvenir ! Chapitre 7. Histoire d'un omnibus, d'une mauresque et d'un chapelet de fleurs de jasmin. Cette première aventure aurait eu de quoi décourager bien des gens. Mais les hommes trempés comme Tartarin ne se laissent pas facilement abattre. « Les lions sont dans le sud, » pensa le héros. « Eh bien, j'irai dans le sud. » Et dès qu'il eut avalé son dernier morceau, il se leva, remercia son hôte, embrassa la vieille sans rancune, versa une dernière larme sur l'infortuné Noirot et retourna bien vite à Alger avec la ferme intention de boucler ses malles et de partir le jour même pour le sud. Malheureusement, la grande route de Mustapha semblait s'être allongée depuis la veille. Il faisait un soleil, une poussière. La tente abri était d'un lourd. Tartarin ne se sentit pas le courage d'aller à pied jusqu'à la ville. Et le premier omnibus qui passa, il fit signe et monta dedans. Ah, pauvre Tartarin de Tarascon! Combien il aurait mieux fait, pour son nom, pour sa gloire, de ne pas entrer dans cette fatale guimbarde et de continuer pédestrement sa route au risque de tomber asphyxié sous le poids de l'atmosphère, de la tente abri et de ses lourds fusils rayés à double canon. Tartarin étant monté, l'omnibus fut complet. Il y avait au fond le nez dans son bréviaire, un vicaire d'Alger à grande barbe noire. En face, un jeune marchand mort qui fumait de grosses cigarettes. Puis un matelot maltais et quatre ou cinq mauresques masqués de linge blanc et dont on ne pouvait voir que les yeux. Ces dames venaient de faire leur dévotion au cimetière d'Abdelkader. Mais cette vision funèbre ne semblait pas les avoir attristées. On les entendait rire et jacasser entre elles sur leurs masques en croquant des pâtisseries. Tartarin crut s'apercevoir qu'elles le regardaient beaucoup. Une surtout, celle qui était assise en face de lui, avait planté son regard dans le sien et ne le retira pas de toute la route. Quoique la dame fût voilée, la vivacité de ce grand œil noir allongé par le col, un poignet délicieux et fin chargé de bracelets d'or qu'on entrevoyait de temps en temps entre les voiles, tout, le son de la voix, les mouvements gracieux, presque enfantins de la tête, disaient qu'il y avait là-dessous quelque chose de jeune, de joli, d'adorable. Le malheureux Tartarin ne savait où se fourrer. La caresse muette de ses beaux yeux d'Orient le troublait, l'agitait, le faisait mourir. Il avait chaud, il avait froid. Pour l'achever, la pantoufle de la dame s'en mêla. Sur ses grosses bottes de chasse, il la sentait courir, cette mignonne pantoufle, courir et frétiller comme une petite souris rouge. Que faire ? Répondre à ce regard, à cette pression ? Oui, mais les conséquences ? Une intrigue d'amour en Orient, c'est quelque chose de terrible. Et avec son imagination romanesque et méridionale, le brave Tarasconnais se voyait déjà tombant aux mains des eunuques, décapité, mieux que cela peut-être, cousu dans un sac de cuir et roulant sur la mer, sa tête à côté de lui. Cela le refroidissait un peu. En attendant, la petite pantoufle continuait son manège et les yeux d'en face s'ouvraient tout grands vers lui comme deux fleurs de velours noir, en ayant l'air de dire « Cueille-nous !» L'omnibus s'arrêta. On était sur la place du théâtre, à l'entrée de la rue Barbazon. Une à une, empêtrées dans leurs grands pantalons et serrant leurs voiles contre elles, avec une grâce sauvage, les mauresques descendirent. La voisine de Tartarin se leva la dernière et en se levant, son visage passa si près de celui du héros qu'il l'effleura de son haleine. Un vrai bouquet de jeunesse, de jasmin, de musc et de pâtisserie. Le Tarasconnais n'y résista pas. Ivre d'amour et prêt à tout, il s'élança derrière la mauresque. Au bruit de ses buffetteries, il se retourna, mit un doigt sur son masque comme pour dire « chut » et vivement de l'autre main, elle lui jeta un petit chapelet parfumé, fait avec des fleurs de jasmin. Tartarin de Tarascon se baissa pour le ramasser, mais comme notre héros était un peu lourd et très chargé d'armes, l'opération fut assez longue. Quand il se releva, le chapelet de jasmin sur son cœur, la mauresque avait disparu. Comme nous l'avons vu, le départ de Marseille vers l'Algérie, comme l'arrivée d'ailleurs, n'ont pas été de tout repos. Entre le mal de mer et les désillusions nombreuses, notre héros tarasconnais n'est pas heureux du tout. Entre la mort prévisible d'un lion et celle bien réelle d'un bourricot, quel rapport ! Quant à la belle mauresque, impossible de la retrouver. Les biens de l'Atlas pourront dormir tranquilles. Les braves lions ne sont pas prêts de mourir. À moins que, dans le prochain chapitre, peut-être. N'oubliez pas, nos lectures sont en direct sur Radio Alliance Plus, FM et DA+, et en rediffusion, vous pouvez aussi les écouter, même en podcast sur notre site. À bientôt. Tartarin n'a pas encore tué son lion. Nous allons continuer à le suivre.